Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Installez-vous, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Soir Info, les derniers invités qui arrivent donc juste à l'image de notre ami Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir à vous. Bonsoir à Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police. Merci d'être arrivé en avance sur, oui. sur ce plateau. Régis Le Sommier est parmi nous. Bonsoir, cher Régis. Évidemment, Amaury Bucco, pour les questions de police-justice, on ira à Rennes avec vous donner un petit peu plus de précision et d'explications sur cette fusillade improbable, incroyable, qui a duré plus d'une heure dans un quartier sensible de la ville. Et vous verrez les images et on en dira beaucoup plus, notamment évidemment avec Jean-Christophe tout à l'heure. Karima Brick de la rédaction, bonsoir cher Karima. C'est Florian Tardif qui prend les rênes pour la politique ce soir en l'absence de Yohann Usaï qu'on embrasse. Merci Florian d'être avec nous. On est ensemble sans interruption, vous en avez l'habitude, jusqu'à minuit avec les grands sujets d'actualité à débriefer. Fait ensemble, à commenter ensemble le sujet de la journée, le sujet du jour plutôt. C'est Emmanuel Macron qui a donc dévoilé les contours de ce fameux projet de loi sur la fin de vie. Dans un entretien à Libération et à La Croix publié ce matin, le président a mis en avant un modèle français de la fin de vie, un projet qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes, indique l'Élysée. Plus de précisions avec Mathilde Ibanez, puis on revient sur ce sujet ensemble particulièrement clivant au sein de notre société.
Il sera présenté en avril en Conseil des ministres. Un projet de loi pour une aide à mourir très encadré.
Cette loi ne crée à proprement parler ni un droit nouveau ni une liberté. Mais elle trace un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes.
Le président de la République insiste, pas d'euthanasie ni de suicide assisté. Le terme d'aide à mourir n'a pas été choisi par hasard.
Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir parce qu'il est simple et humain et qu'il définit bien ce dont il s'agit. Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un, avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici.
Les conditions seront très strictes et tous les malades ne pourront pas y prétendre. Comme la Convention citoyenne l'avait recommandé, cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, capables d'un discernement plein et entier. Les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement, comme Alzheimer, ne seront pas concernés. Par ailleurs, le projet de loi entend renforcer les soins palliatifs insuffisants en France. Une unité verra le jour dans 21 départements qui en sont toujours dépourvus.
Je voudrais dans un premier temps qu'on décrypte peut-être les mots du président de la République, Jean-Sébastien, si vous voulez commencer. Une loi de fraternité, je le cite de nouveau, avec ce texte, on regarde la mort en face. En lisant pour la première fois ces quelques lignes, je me suis dit, c'est un peu prétentieux, je trouve, comme façon de s'exprimer. Qui regarde la mort en face ?
C'est un vaste débat.
Non, mais je me suis dit que je me suis...
Macron la regarde en face, mais en tout cas sur une loi de fraternité, on voit bien qu'il essaye de se mettre en surplomb des divisions françaises sur le sujet, qu'il a pris grand soin de ne pas employer le mot euthanasie ou même le mot suicide assisté, alors que des tas d'intervenants, j'entendais tout à l'heure un médecin belge qui disait, mais si, évidemment, que ça ressemble à une forme...
Pourquoi on n'appelle pas un chat un chat ? En effet, les mots d'euthanasie, de suicide assisté sont balayés pour ce terme d'aide à mourir. Donc une euphémisation que certains soignants que j'ai pu entendre également qualifient d'un peu dangereuse. C'est dû en même temps également sur ce sujet ?
Ça n'est pas dû en même temps. Je pense que c'est un calcul politique de la part du président de la République parce que la société française est très divisée sur le sujet. Ce qui est peut-être plus dû en même temps, c'est de s'adresser aussi bien à la Croix qu'à Libération et... Encore une fois, d'essayer de se mettre en surplomb, mais ce sont des sujets, même s'il emploie quand même les mots d'humilité et qu'on sent qu'il est quand même prudent dans la manière d'argumenter sur le sujet, parce qu'il sait qu'il en va de quelque chose qui est très au-delà d'une liberté individuelle. C'est une transgression philosophique et morale. On a entendu un certain nombre de gens le rappeler, pas seulement des religieux. Hein. Robert Badinter, souvenez-vous, disait qu'il était absolument contre toute légalisation de l'euthanasie, puisqu'il ne comprenait pas comment l'État pouvait avoir à voir avec la décision.
On entendra François Sureau, l'académicien, le rappelait également.
Oui, François Sureau le disait aussi, mais après, on peut venir plus tard sur le débat de fond, si vous voulez.
On y vient. Libération d'un côté, un électorat supposément à gauche, plutôt favorable, La Croix, un électorat plutôt chrétien, plutôt de droite, qui voit ça d'un autre œil. Les enfin, évêques, d'ailleurs...
La Croix a évolué ces dernières années.
Comment ?
La Croix est plutôt devenu un journal de centre-gauche.
Ouais. D'accord, bah, merci, merci de rectifier. En tout cas, un journal chrétien.
Et Libération, ce sont deux journaux qui ont pris position assez clairement sur cette question et qui en ont fait presque un combat. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ça a été choisi. La Croix, qui est plutôt, effectivement, vous l'avez compris, contre ces différents procédés exposés par le président de la République, et Libération, qui est totalement pour. Alors, qui pousse même pour une évolution.
Justement, en ce qui concerne le monde chrétien, la communauté chrétienne, les évêques, l'épiscopat, opposés à une aide à mourir, ça fait longtemps qu'ils partagent leurs inquiétudes au président de la République. Écoutez, dans un premier temps, Mgr Rouget, l'évêque de Nanterre.
Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Et en réalité, en dissimulant ces dispositions derrière un mot un peu valise et un peu doux, le président de la République n'arrive pas à cacher ce que, d'ailleurs, dès maintenant, les associations de médecins et de soignants ont relevé. Ce projet de loi, c'est non pas l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est l'euthanasie et le suicide assisté. Et en quelque sorte, on a...
Donc quand on dit aide à mourir, c'est une litote, c'est un euphémisme, c'est un faux-né ?
C'est une litote, c'est un euphémisme. Et en réalité, ce qui est proposé, c'est à la fois la solution belge et la solution suisse.
Je voudrais que vous lisiez également, avant de vous entendre les uns les autres, ce qu'elle déclare dans La Croix, d'ailleurs également, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, appelé loi de fraternité, un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, est une tromperie. Une telle loi, quoi qu'on veuille, infléchira tout notre système de santé vers la mort comme solution. Avancer ou recul sociétal, Régis Le Sommier. Par philosophie, la pensée chrétienne catholique est opposée, on l'a bien compris, à cette notion d'aide à mourir. Qu'en dites-vous ?
Oui, je pense que même au-delà de la pensée catholique, il serait intéressant d'interroger d'ailleurs les musulmans là-dessus, qui est quand même la deuxième.
Oui, la pensée religieuse, j'aurais pu être plus global, vous avez raison.
Voilà, il n'y a pas que les catholiques là-dessus. Et puis même d'autres personnes aussi ont émis, vous évoquiez Robert Badinter tout à l'heure, justement, pour qui demandait. Ça, c'est l'ingérence de l'État, justement, dans cette fin de vie, dans ces procédés de fin de vie. On sent que le président est très ambigu parce que il sait qu'il y a matière à polémique et qu'il avance à pas feutré, mais en réalité, il y a quand même une volonté il a du mal à appeler un chat, mais quand même, ce que dit l'évêque de Nanterre est quand même assez exact, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça, mais en fait, c'est un mélange de ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe
en Belgique. C'est pour ça que j'évoquais le en même temps avec Jean-Sébastien il y a un instant, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment cette façon de ménager un peu tout le monde, qui serait pour et ceux qui... Je voudrais juste me tourner vers Florian.
À côté des questions de fond, c'est ça le problème.
Oui, avant que justement on s'intéresse, nous, ici, un peu plus sur le fond, on s'intéresse un peu plus au fond. Florian, cette séquence politique, elle nous interpelle aussi parce qu'elle est... on se demande si elle est vraiment propice pour s'atteler à un sujet tel que celui-là.
Et j'ai envie de vous répondre, c'est parce qu'elle n'est pas propice qu'elle en devient propice pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, on l'a évoqué, c'est un sujet clivant. Plusieurs de ses adversaires, puisque ça ne vous a pas échappé, il y a une petite campagne, celle des européennes, avec cette échéance du 9 juin qui approche. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur cette date du 27 mai, tout de même, pour commencer les débats au Parlement autour de ce texte.
Mais elle sera présentée plutôt en Conseil des ministres.
Classique.
Quelques semaines plus tôt.
Conseil d'État, présentation devant le Conseil des ministres, puis le début des débats au Parlement, à l'Assemblée ou au Sénat. Ça sera d'abord à l'Assemblée nationale. Non, c'est un sujet clivant. Il y a plusieurs des adversaires du camp présidentiel qui, et on le sait, ont des positions très fermes sur cette question. On pourrait citer François-Xavier Bellamy, qui s'est d'ailleurs positionné ce matin sur cette question. Et en se positionnant sur cette question, le camp présidentiel espère en quelque sorte que ses différents adversaires perdent des points dans le cadre de ces élections européennes. Quand on sait que Renaissance est à 10 points au moins derrière dans les sondages du Rassemblement
national. 13 points pour le 13 points selon le dernier sondage,
il y a peut-être aussi une part de cynisme là-dedans qu'on ne peut éluder.
C'est une question évidemment qui nous concerne tous en tant que citoyens, qui peut tous nous concerner en tant que citoyens. Jean-Christophe Couvi, jusqu'à maintenant, la loi Claeys-Leonetti permet d'arrêter les soins ou d'entrer dans une sédation profonde quand il n'y a plus d'espoir à très court terme pour un malade. Elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté. Est-ce que vous estimez qu'il est urgent d'aller plus loin ?
Alors, c'est un vrai débat sociétal. Après, on a tous donné notre sentiment. Aujourd'hui, c'est les médecins qui doivent décider si on doit vivre ou pas, quoi, en fait, quelque part. Est-ce qu'ils sont légitimes à décider de ce que je dois faire de mon corps? Est-ce que les gens peuvent... Ça s'appelle le libre arbitre aussi. Et la loi, elle est là pour protéger les gens qui voudraient justement partir dignement. Qu'est-ce qu'on a quand on n'a plus rien?
Et qu'est-ce que ça veut dire partir dignement? Est-ce qu'on n'est pas digne dès l'instant où on souffre?
C'est la loi qui va le cadrer. Et c'est là où est le vrai débat de fond, et pas que de forme, c'est qu'il va falloir vraiment cadrer aussi la loi et savoir jusqu'où on peut aller. Après, effectivement, notre corps, on l'a vu l'autre jour...
Pardon de le dire de cette façon, mais est-ce qu'on peut, quelle que soit la complexité de la loi, est-ce qu'on peut confier le manuel du parfait accompagnant à mourir à un soignant? Ça n'existe pas. Comment...
Qui d'ailleurs, bien souvent, n'en veulent pas.
Et qui, bien souvent, n'en veulent pas. Pardon, Jean-Christophe, de vous avoir coupé.
Pas tous, il y a des soignants aussi qui veulent. Aujourd'hui, force est de constater aussi qu'il y a des endroits en France, je suis désolé, on ne meurt pas dignement, on crève. Il y a des familles qui attendent.
Mais ça, c'est parce que la loi Leonetti, justement, n'a pas les moyens suffisants pour être respectée.
Il faut aller au bout aussi de la performance, j'allais dire. C'est qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi dans une société? Il y a des gens qui demandent à mourir dignement. Encore une fois, c'est le libre arbitre. C'est ce qui nous différencie, entre autres, des animaux. Donc, une société, elle évolue.
Pardon, et à un moment donné, il faut pas finir. Mourir dignement, parce que ça, je respecte parfaitement. La divergence, toutes les positions possibles, mais quand on emploie le mot mourir dignement, ça sous-entend que ceux qui mourraient sans finalement accélérer leur fin mourraient dans l'indignité.
C'est ça.
Et ça n'est pas possible. Non. Il y a des gens qui, vous parliez de faire face à la mort, il y a des gens qui...
Ça veut dire quoi mourir dans la dignité? Non, mais franchement, moi, c'est une question peut-être stupide, mais...
Les sémantiques sont très importantes, parce que je comprends parfaitement la demande qui peut être exprimée de ne pas subir des souffrances, inutiles en quelque sorte. Mais n'employons pas des mots qui, en creux, désignent une autre réalité, parce que c'est quand même de la valeur de la vie.
Jean-Sébastien, qu'est-ce qui se cache pour vous derrière ces mots, mourir dans la dignité? Qu'est-ce que ça signifie pour
vous ? Déjà, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on soit une société où on meurt sur des brancards aux urgences et que l'urgence, mais peut-être parce qu'il y a des considérations de calcul politique, ce soit d'aller vers cette loi-là, alors que de facto, je vais vous dire, ça a toujours existé. Ça existe. Il y a des gens qui disent que c'est probablement entre 3 et 4 000 cas de toute façon par an. La loi Claeys-Leonetti prévoit déjà un certain nombre de choses. Donc encore une fois, moi, je respecte la demande. Je peux entendre ce que disent les gens. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit uniquement d'une question de liberté individuelle, parce qu'il se trouve que la valeur de la vie, elle a un impact collectif. À partir du moment où nous rentrerons dans cette logique-là, qu'est-ce qui empêchera ensuite, parce qu'on n'en est déjà pas loin, vous savez que les technos, ils sont capables de calculer, vous avez plus de tel âge, est-ce qu'il est encore raisonnable de vous accorder un financement public pour un traitement, par exemple, pour un cancer? Parce que c'est quand même ça. C'est quand même de ça dont il s'agit. Et donc, une fois qu'on en sera là, est-ce que vous ne croyez pas que la tentation de dire, bah, écoutez, monsieur ou madame, il vous reste plus que 3 mois à vivre.
Mais c'est ce que dénonce d'ailleurs une partie des soignants.
Plus raisonnable d'aller.
Je voudrais qu'on avance. Amaury et Karima, vous allez
évidemment. L'économie de cette question-là, même si j'entends encore une fois la question qui se pose sur la liberté individuelle.
Plusieurs organisations de soignants exerçant auprès de personnes en fin de vie ont fait part de leur consternation, colère et tristesse. Je les cite avec une grande violence. Le chef de l'État annonce un système bien éloigné des besoins des patients et des réalités quotidiennes des soignants, avec en perspective de graves conséquences sur la relation de soins, dénoncent donc les signataires de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je voudrais que vous entendiez également, avant qu'on poursuive, cette soignante qui rappelle que pour elle, son métier n'est pas celui de donner la mort à ses patients.
Notre métier, il n'est pas de donner la mort. En aucun cas, j'ai choisi d'être infirmière et les soignants ont choisi les métiers du soin pour donner la mort. Pour nous, donner la mort, ce n'est pas considéré comme un soin parce qu'au quotidien, on est témoin que les patients, surtout, ne nous demandent pas ça. Ils ne nous demandent pas à mourir. En revanche, ils nous demandent à être soulagés, à être accompagnés, à être écoutés, parce qu'on s'occupe de leur famille et qu'on accompagne leur famille aussi. Je crois que c'est un point qui est fondamental. Mais ils ont besoin qu'on soit là. Ils n'ont pas besoin qu'on donne une réponse hyper radicale et surtout ultra violente, qui est de faire mourir. Dans le texte, il a été parlé de fraternité, de solidarité. Je crois que c'est ce qu'on vit tous les jours auprès de nos patients. On vit vraiment la fraternité. On leur dit qu'on est là avec eux. La promesse qui pour nous fait sens dans notre métier, c'est la promesse du non-abandon, de pouvoir dire à chaque patient qu'on ne les abandonnera pas, qu'on ne les laissera pas tomber, qu'on sera là avec eux jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait sens dans notre métier, ce qui fait sens aussi pour les patients.
En fait, ce que nous dit cette jeune femme infirmière en soins palliatifs, c'est que la souffrance peut être soulagée plutôt que la vie abrégée. Karima et Amaury Bucco.
Oui, c'est ça. Vous savez, moi, je peux vous parler de la situation qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, notamment au Canada, parce que ça existe depuis 2016.
Oui, et puis plus proche encore en Belgique et en Suisse.
Oui, c'est ça. Espagne. Et au Québec, c'est depuis 2015. Et c'est quand même assez intéressant quand on regarde les chiffres, hein, parce qu'il y a... Il y a vraiment eu une augmentation d'année après année des personnes qui ont demandé cette aide médicale à mourir. Et aujourd'hui, oui, ça représente 7,3 %. C'est quand même beaucoup des décès qui ont été enregistrés au Québec. Donc, on voit l'augmentation. Et le Canada, donc, a élargi quand même certains critères, parce que c'est vrai que les critères, au départ, c'était très, très restrictif. C'était pour les personnes vraiment en fin de vie, avec une situation de maladie vraiment incurable et dans un certain délai. Et ce n'est pas, c'est pas parce que vous demandez que vous allez recevoir nécessairement. Donc, c'est quand même, il y a des cas assez précis.
Oui, et d'ailleurs, le président de la République a parfaitement clarifié maintenant ce que les opposants disent, c'est que c'est une porte ouverte.
Ben oui, c'est sûr que c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que c'est pas vrai que vous allez demander, et c'est pas, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, c'est pas une liberté au sens que... Vous faites une demande s'il y a certains critères précis, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde. Mais tout ça pour dire, vous dites que ça ouvre effectivement une, je sais pas si c'est une boîte de Pandore, mais à tout le moins ça ouvre la porte à l'élargissement. Ben, en ce moment, au Canada, c'est toute la question sur les maladies mentales. Si vous souffrez d'une maladie...
Ça, c'est exclu pour le moment ici. Hein.
Mais, ben, c'est exclu encore, mais sauf qu'on est là-dedans. Maintenant, on vise probablement 2027, donc on voit que ça ouvre. Et il y a beaucoup
c'est
de choses...
C'est quel procédé exactement au Canada?
Il y a dans les détails, ben, c'est je ne peux pas vous dire la médication comme telle. Il y a des injections
Non, parce que c'est hyper intéressant, parce que, par exemple, l'un des premiers États, alors c'est l'un des États des États-Unis, c'est l'Oregon qui a légalisé ça en 97, et c'est le principe de la kill pill, c'est-à-dire
la pilule qui tue pour traduire.
Et pour le coup, voilà, c'est une personne qui demande à deux médecins différents, enfin il y a tout un processus, je ne vais pas vous le décrire, pour obtenir cette fameuse pilule. Après, il faut aller la chercher et l'ingérer. Et grosso modo, les chiffres, c'est un tiers des personnes qui souhaitent faire cette démarche, débutent la démarche, mais ne vont même pas jusqu'à aller chercher la pilule.
Il y a un autre tiers. Regarder la mort en face, en effet, n'est pas donné à tout le monde.
Et il y a un dernier tiers qui va jusqu'au bout, qui va chercher la pilule et qui finit par l'ingérer. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur quasiment ce qui est proposé tout de même en France, c'est-à-dire que jusqu'au bout du process, on peut laisser le choix.
Bien sûr, patients, c'est encore heureux.
Avec le encore heureux.
Il suffit de pas de prendre la décision une fois pour être condamné à devoir suivre le protocole.
Dans ce cas-ci, c'est des médecins. Dans ce cas-ci, c'est l'aide. C'est des médecins. Ce sont des médecins qui le donnent. Et il y a une liberté de conscience aussi. Puis je veux juste dire, c'est quand même un sujet... Effectivement, c'est extrêmement intime. Il y a des considérations éthiques, philosophiques. Et pour revenir sur la question quand on parle du droit à mourir dans la dignité... Je pense que ce mot-là est venu beaucoup aussi des personnes qui souffraient, des malades qui disaient « moi, j'aimerais avoir cette possibilité ».
C'est peut-être eux qu'il faut écouter en premier. Parce que les considérations...
Et je suis d'accord, c'est pas que les autres meurent dans l'indignité. Je pense que ça vient de personnes extrêmement souffrantes. Et peut-être en terminant...
Ça vient d'associations politiques.
Il ne faut juste pas non plus... Il y a cette question de l'aide médicale à mourir, mais il ne faut pas oublier tout l'aspect des soins palliatifs, parce que dans certains cas, 90% de certaines maladies, la souffrance peut être soulagée.
Bien sûr.
Et il y a beaucoup de gens qui souffrent psychologiquement et qui se disent « c'est parce que j'ai peur de cette qualité de vie qui se détériore, j'ai peur de me retrouver en EHPAD ou enfin dans des centres d'hébergement de longue durée, ou j'ai peur de ne pas avoir accès à des palliatifs ». Donc, il ne faut pas que ce soit une alternative au fait
c'est pour
qu'on
ça que
soit juste... le palliatif.
C'est pour ça que beaucoup de politiques... parce que j'ai un conducteur à faire avancer. On n'a pas fini, on a encore un quart d'heure de débat. Emmanuel Hirsch, s'il vous plaît, professeur. Ne prenez pas le... S'il vous plaît, Jean-Sébastien, vraiment, je suis désolé, mais il faut
quand même...
Vous allez prendre la parole juste après. J'ai juste besoin d'avancer. S'il vous plaît, suivez-moi. Le professeur émérite d'éthique médicale qui répondait à nos questions aujourd'hui, pour lui, cette question est extrêmement floue.
Est-ce qu'on arrivera à délimiter ce qui relève ou pas de l'euthanasie d'exception ? Parce que chaque fin de vie est exceptionnelle. Donc ça, c'est déjà un point d'ancrage du questionnement éthique. Quelles seront les limites ? Et si effectivement, comme Jonathan Denis évoque, la maladie de Charcot, une personne atteinte de cette maladie peut aussi souhaiter vivre jusqu'au bout de son existence. Il ne faut pas que la loi soit normative.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on donne des maladies en particulier. Dans son interview hier, le président de la République a parlé du cancer. Mais aujourd'hui, vous pouvez évoluer très longtemps avec une qualité de vie préservée. Et peut-être qu'à un moment donné, y compris si les choses vont plutôt bien, vous penserez que votre existence, elle a peu lieu de se prolonger. C'est dans ce sens que d'abord, Je trouve que ce n'est pas une question qui relève de la prérogative du chef de l'État. Ce n'est pas une question régalienne. C'est une question qui méritait mieux.
Jean-Sébastien, c'est une question qui méritait mieux, conclut Emmanuel Hirsch. Pardon.
Et parce que c'est, oui, comme il le disait, une question qui est profondément philosophique, éthique. Après, il y a eu une conférence citoyenne, malgré tout, sur le sujet, et il y aura un débat. Mais juste sur le mot dignité, parce que ça n'est pas... Je comprends le point de Karima, si on raisonne à hauteur d'individu, mais c'est pas comme ça que c'est apparu dans le débat public. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité, c'est une association politique qui a une philosophie, et dont le projet politique est finalement, et c'est ce qu'on est en train de voir là,
oui, il y a des
de
individus derrière,
à tout lien avec le religieux, avec la transcendance dans le débat public. Alors, ça peut être respectable, hein, c'est pas le sujet, mais ne soyons pas dupes, il y a quand même derrière ces combats-là, regardez la tribune qu'il y avait dans Le Monde aujourd'hui aussi, de gens qui disent, les forces qui s'opposent à l'aide à mourir sont les mêmes qui s'opposaient à l'IVG en 1975. Parce que c'est dans un combat
c'est beaucoup plus clivant que ça.
Global, et la valeur de la vie, la valeur qu'on accorde à la vie, le sens qu'on accorde à la vie est... quitte à assumer une transgression, parce que ça existe, la transgression, tout simplement. Parfois, on peut dire, oui, je sais que là, je ne suis pas dans le cadre de la loi, mais pour des raisons d'humanité, j'assume de le faire.
Depuis quelques heures, on vous montre sur cette antenne le tweet de notre confrère Charles Biétry, qui, vous le savez peut-être, lutte contre la maladie de Charcot, cette maladie incurable depuis longtemps maintenant. Et justement, à propos de ce débat, il a pris la parole sur son réseau social aujourd'hui, ou hier soir plutôt. J'ai réussi à bien vivre. Je n'ai pas envie de mal mourir. La maladie de Charcot m'a déjà privé de l'usage des jambes et de la parole. Bientôt, ce sera la respiration, accompagnée de souffrances pour moi, pour les miens. Cette loi, un premier pas, peut nous offrir liberté et dignité. Merci, dit-il, j'imagine, à l'adresse du président de la République et ceux qui feront avancer ce projet de loi. On peut avoir toutes les considérations sociologiques, philosophiques, sociétales, politiques, religieuses. La parole de ceux qui demandent à choisir leur fin de vie doit être entendue.
Oui, c'est pour ça que la loi doit les protéger. Judiciairement, je veux dire... en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les pays plus catholiques, hein, comme l'Espagne, le Portugal, ont franchi le Rubicon. Et en fait, ceux qui font de la résistance, d'ailleurs, c'est les pays du nord de l'Europe. Ce qui est marrant, d'ailleurs, à voir. Et tous les pays catholiques, même l'Italie, tout le monde franchit plus ou moins le Rubicon. Après, effectivement, il faut que ce soit bien cadré. C'est ce cadre-là qui va légiférer. Il y a déjà des exemples, justement, avec la Suisse et la Belgique. On n'a qu'à faire du copier-coller, et vraiment bien le cadrer. Après, encore une fois, c'est le libre arbitre.
Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que dans l'un des deux pays cités, Suisse ou Belgique, je crois que même les mineurs peuvent avoir accès
en Belgique.
Donc, il y a un moment, et je trouve, enfin, franchement, c'est là où ce débat va être particulièrement clivant, et c'est pour ça qu'il est aussi très cadré, là, dans les mots du président de la République, parce que les mineurs, les maladies mentales, les gens dont le discernement peut être altéré à un moment ou un autre, là, pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir pour le président de la République. En Belgique, Amaury Cattan, je suis vraiment désolé, Régis, vous êtes le suivant. Pardon, les amis.
Je me souviens qu'il y avait un cas assez frappant, justement, de quelqu'un d'assez jeune. Alors, je ne sais pas s'il était mineur ou s'il avait juste 18 ans, 19 ans, mais quelqu'un qui se disait dépressif, qui n'avait pas de moyens.
Je crois que c'était une jeune femme.
Une jeune femme, je crois aussi, et qui avait demandé. Et moi, ça m'avait. Franchement, je m'étais dit, mais oh là, la Belgique, on est déjà là. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, effectivement, si on regarde à l'échelle individuelle, on peut comprendre. Mais ça a un impact derrière sur toute la société, évidemment, et sur l'approche qu'on va avoir de la mort. Et on sait très bien que, par exemple, les EHPAD. Il y a énormément de personnes âgées qui, a priori, n'ont aucune perspective que leur tombe, puisque leur santé va continuer à se dégrader. Dans les hôpitaux, c'est pareil, qui sont surchargés aussi. Et moi, je ne peux pas ne pas me dire que, finalement, dans ces hôpitaux ou même dans ces EHPAD, on va parler de l'euthanasie. Je ne dis pas qu'on va faire de la pub, mais on va communiquer sur ce moyen de finir sa vie.
Et mais vous avez raison.
Et petit, on va pousser les gens un peu vers la sortie, c'est quand même assez terrible.
Quel message envoie une loi sur l'aide active à mourir et pour le coup, c'est vrai que ce que dit Amaury est assez intéressant parce que vous pouvez créer un appel d'air, une demande.
Oui, c'est le cas au Canada.
Oui, 5 000 personnes. Par exemple, Régis. Mais,
alors, moi, je voulais revenir quand même sur le timing de ce projet de loi parce que j'ai été étonné tout à l'heure du tweet de Ségolène Royal que je trouvais très intéressant.
Que dit-elle ?
Il faudrait d'abord agir pour aider à vivre dans de bonnes conditions et non pas aider à mourir, dire remise à niveau
de l'hôpital
et des urgences. Non, non, non. déserts médicaux, lutte contre les maltraitances dans les EHPAD, soins palliatifs et plans d'urgence pour les détresses suicidaires des adolescents.
Mais l'un empêche-t-il l'autre? C'est
l'un n'empêche pas l'autre, mais le gros problème.
Mais elle a raison, oui.
Il est quand même là. Ce problème-là, il existait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Pourquoi aujourd'hui le mettre en avant? On va encore discuter, en effet, de cas. Et qui existe, hein, il n'y a pas de doute, ce que dit Charles Bietri est totalement légitime. Il y a des personnes, en effet, qui sont dans des situations impossibles ou qui ont effectivement...
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les discussions du monde, quand vous tombez sur une déclaration comme celle-là, qu'est-ce que vous faites?
Oui, et vous pouvez que dire...
Ce monsieur, il a raison pour lui, évidemment. Oui. Évidemment qu'il a raison pour lui. Et que personne ne peut se mettre à sa place et à la place de ce qu'il peut aspirer pour le temps qui lui reste.
Ça reste quand même aussi le fait que... moi, je préférerais entendre un grand plan sur la santé qu'on attend depuis des années, qui éventuellement pourrait regrouper ce genre. Parce qu'il y a de plus en plus... il y a de plus en plus de seniors. Et en effet, la question des EHPAD, tout ce qu'on a dit là est tout à fait valable et tout à fait légitime, mais on ne l'entend pas. Là, on va sur des terrains polémiques aussi. Moi, je trouve que la position du président est extrêmement clivante. Elle est potentiellement clivante à nouveau. Elle est peut-être pas totalement d'actualité.
Je voudrais juste, alors si je peux me permettre, et vous prenez juste derrière, c'est promis encore une fois, Claire Fourcade. Je voudrais citer Claire Fourcade, que vous connaissez peut-être, qui est médecin, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a quelques mois, alors que l'idée de ce projet de loi commençait à naître, elle avait donné une interview et j'avais noté ces quelques mots. En promulguant une loi autorisant l'euthanasie, et ça va dans le sens de ce que disait Amaury, on va contraindre tous les patients à l'envisager. Désormais.
C'est vrai.
L'offre crée toujours la demande. Tout le monde doit avoir conscience de la portée de ce changement, car si personne ne sera obligé de demander une euthanasie, tout le monde sera obligé de l'envisager. Chaque patient se demandera, est-ce qu'abréger ma vie serait mieux pour moi, pour mes proches, pour la société?
Pour
moi, pour mes proches, pour la société.
Bah, c'est ça.
Bah, à ce moment-là,
elle soulève la question la plus centrale, je trouve.
Fallait pas décriminaliser le suicide en 1791. Enfin, il y a un moment où on peut aller jusqu'à ce moment-là aussi.
C'est un peu par les cheveux, je trouve, mais...
Je suis un tout petit peu désolé, oui, je suis totalement d'accord sur le bienveillir et il y a une incompréhension totale sur le fait qu'on nous annonce une loi bienveillir, on nous annonce effectivement depuis des années le fait que ça va être le grand défi de notre siècle, c'est-à-dire qu'on a une population vieillissante et qu'il va y avoir un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir avancer justement pour prendre soin de nos aînés. Que nous serons dans quelques décennies. Mais malheureusement, je suis désolé, vivre, ce n'est pas durer. C'est-à-dire qu'il y a un moment,
mais il peut y avoir... Peut-on affirmer une chose pareille?
Non, mais j'ai l'impression...
Bien sûr que si, vivre, c'est durer pour certaines personnes, et ça leur appartient.
Pour certaines personnes, mais pour moi, on peut aussi dire que
vous,
vivre...
C'est pour ça que c'est très subjectif.
C'est très subjectif, sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis que ce débat a été soulevé, on a l'impression, dans tous les commentaires, donc quasiment... quand même beaucoup de commentaires, que vivre, le synonyme, c'est durer.
Ce que dit
Claire Fourcade, pour moi, ce n'est pas durer.
Oui, mais ça, c'est pas ce qu'elle dit exactement.
C'est votre opinion personnelle, elle est respectable.
Non, par exemple...
Attendez. Quand vous avez 80 ans, vous avez des petits-enfants et tout ça, vous avez envie de durer, je veux dire, vous avez...
Non, mais au-delà de ça, ce que dit Claire Fourcade...
Non, je suis pas totalement d'accord.
C'est inaudible, me dit-on dans l'oreille. C'est inaudible. Je vous propose juste une séquence. Et Jean-Sébastien, je sais que vous voulez encore réagir, je vous promets que vous réagirez. Ce sera Karima également d'abord. Je voudrais vous montrer une séquence très très poignante qui a eu lieu ce matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Et là encore, qu'est-ce que vous voulez répondre à des gens qui ont vécu ça et dont c'est le quotidien, au-delà d'une réflexion purement philosophique? Vous connaissez peut-être Mario Baravecchia. C'était un ancien candidat de la Star Academy il y a de nombreuses années. Il a vécu un drame familial dans lequel il a dû accompagner son papa. Il le racontait chez Jean-Marc Morandini. Et face à lui, en plateau, Philippe Bourriachi, pardonnez-moi, qui est du Conseil régional d'Île-de-France, qui est du parti écolo, qui a craqué complètement en écoutant ce récit. Écoutez cette séquence vraiment poignante.
Mon père a été atteint de la maladie de Charcot, hein, qui est une maladie neurodégénérative. Les dernières semaines, mon papa me demandait très souvent de le laisser partir. C'est une question très délicate, c'est un dilemme pour un fils aussi de répondre favorablement à la demande de son père qui ne veut plus se voir souffrir, dépérir, devenir un légume et de se dire allez, on va respecter la dernière parole de son père. Et puis, il y a le côté où on veut le garder le plus longtemps possible près de soi. On croit un certain miracle aussi, forcément. Et voilà, j'aurais certainement dû respecter la parole de mon père un peu plus tôt et lui accorder de partir avec beaucoup moins de souffrance.
Merci beaucoup, Mario. Votre témoignage est très fort, vraiment très fort. Juste, Philippe Bouriaki, vous êtes en larmes sur ce plateau.
C'est terrible.
C'est une preuve d'amour que Mario a fait à son père. Quand il a parlé de son père, j'ai des images de ma mère qui attendait mon retour avant de partir et nous avait demandé de respecter sa dignité, de partir en femme forte. Et donc, je comprends que ça lui est très difficile pour Mario de brancher. Je suis vraiment désolé, pardon.
C'est terrible.
Vous avez réussi à l'aider à partir, votre maman ?
Les médecins ont fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Mais j'ai eu très peur qu'ils me demandent de le faire parce que un amour inconsidérable pour celle qui représentait tout pour moi et qui représente toujours tout pour moi. Et j'aurais respecté sa volonté. Pardon.
Ouais, qui sait ce qu'il serait capable de faire dans un moment comme celui-là. Je me dis que ce qui est important, c'est d'éviter la souffrance. Le vrai sujet, j'ai l'impression, encore une fois, c'est des choses très subjectives, c'est les soins palliatifs, pour moi, le vrai sujet.
Mais pas
c'est d'éviter la souffrance. Non, mais c'est sur ça que notre État doit se montrer digne. En l'occurrence, pour réutiliser ce mot, nous serions dignes d'éviter à nos aînés, à ceux qui souffrent, de souffrir quand nous pouvons le faire et quand la loi Leonetti le propose.
Mais bien sûr, mais il y a une question d'investissement. Emmanuel Macron parle de 1 milliard, mais malheureusement, on connaît les contraintes budgétaires en France sur les soins palliatifs. Mais j'insiste aussi sur la solitude, parce que dans un certain nombre de cas, il y a des gens qui préfèrent mourir dans la mesure où ils sont seuls et ne voient plus d'intérêt à leur vie.
Encore une fois,
c'est un étrange renoncement de la part d'une société que de considérer. Parce que ce que disait Claire Fourcade est très important, je pense, sur l'impact sur les proches. Souvenez-vous du chanteur Dave, qui est néerlandais, et donc sa mère a été euthanasiée aux Pays-Bas. Et il dit, avec le recul, je me rends compte que probablement elle l'a fait pour ne pas nous embarrasser, mon frère et moi. Enfin, je sais plus si c'était un frère ou une sœur, mais peu importe, pour ne pas embarrasser ses enfants. Et donc, cette logique-là de ne pas vouloir devenir un poids, parce que finalement, oui, Madame Fourcade a raison, on posera la question d'un point de vue financier et budgétaire, vous pouvez en être certain, elle existe déjà. À partir de quel âge on renonce à certains traitements? Il y a d'autres gens qui disent, on a entendu certains écologistes qui vous disent, pour préserver la planète, si vous avez déjà suffisamment vécu, on ne va pas en plus vous soigner pour continuer à peser sur le sort de la planète. Et là, on rentre dans une réflexion qui remet profondément en cause la notion de la vie dans la civilisation qu'est la nôtre.
Maintenant, et la façon j'entends, dont la évidemment, traite ses aînés
j'entends
également.
Ce que dit, et j'ai pu connaître ce genre de situation.
Vous monopolisez la parole,
oui,
je suis désolé.
Entendre les cas personnels.
Non, mais on parlait des soins palliatifs. Par exemple, on sait aussi que quand on donne beaucoup de morphine à quelqu'un, ça le tue à petit feu. Donc en fait, on se rend compte aussi qu'avec les soins palliatifs, on peut accélérer la fin de vie de quelqu'un.
Et on peut diminuer la souffrance, surtout.
Et non, mais je sais, mais souvent, ça a d'une pierre deux coups. C'est que si vous donnez beaucoup de morphine à quelqu'un sur le long terme, vous l'empoisonnez et il meurt, finalement, rapidement. Et ce que je voulais dire, et je rejoins Jean-Sébastien Ferjou, enfin, je vais parler très rapidement de mon cas personnel, mais moi, j'ai une grand-mère qui a 100 ans, qui a fait une chute à Noël et qui, du coup, maintenant est immobilisée et qui me dit « j'en ai marre ». Et ben, c'est vrai que notre réflexe, ce n'est pas de nous dire comment on va la faire partir, c'est plutôt de nous dire comment on l'entoure et se relayer pour être toujours auprès d'elle.
Mais elle est pas dans une maladie incurable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est
elle a 100 ans et elle n'est pas en très bon état.
Dans les critères, en ce moment, ce n'est pas ça dont il est question.
Non, mais bien sûr, mais je veux dire, comme on sait que l'euthanasie s'ouvre à ce genre de questions petit à petit, vous voyez que ça touche de plus en plus largement les gens.
Parti. Il est 23h, chers amis. C'est vrai que c'est une question qui prend des heures et qui ne sera peut-être jamais tranchée parce que c'est une question de conviction, de philosophie, de vie, de religion, de croyance aussi. Les débats à l'Assemblée seront clivants et on verra donc dans les mois qui viennent. 27 mai, arrivé à l'Assemblée nationale, on aura évidemment beaucoup d'occasions de reparler de cette question essentielle, bien que le timing soit un petit peu étrange en termes politiques. On l'a bien compris. Maureen Vidal pour l'actualité, puis on vous parle dans quelques secondes de cette fusillade folle, insupportable, dans un quartier de Rennes hier pendant plus d'une heure. Alarme lourde, ça s'est réglé à la Kalachnikov. Maureen Vidal.
Un
un véritable drame en France. Le bilan des victimes des intempéries monte à 5 morts, tous emportés avec leur véhicule par des rivières en crue dans le Gard et dans l'Hérault, où un octogénaire a été retrouvé noyé. Aujourd'hui, 3 personnes, dont 2 enfants, sont toujours portées disparues. Des centaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que des hélicoptères, des gendarmes et des drones. À l'occasion de la journée annuelle dédiée aux victimes du terrorisme, Gabriel Attal s'est rendu à Arras. Le Premier ministre a remis la Légion d'honneur à 5 personnes au lycée Gambetta, où a été tué l'enseignant Dominique Bernard il y a 5 mois par un ancien élève radicalisé. Il a ensuite participé à un hommage aux victimes du terrorisme avec environ 600 personnes. Une première cérémonie en dehors de Paris et sans Emmanuel Macron. Enfin, Kate Middleton présente ses excuses. La princesse de Galles a posté hier une photo d'elle avec ses enfants à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni. Problème, le cliché a été retouché. Les agences de presse ont retiré la photo de leur banque d'images. Cette polémique intervient alors que l'état de santé de Kate Middleton pose question outre-manche.
Ces dernières semaines, merci beaucoup Maureen. Ces dernières semaines, on a beaucoup évoqué la ville de Marseille, ses règlements de compte, Nîmes également, pour ne citer que ces villes du sud de la France. C'est à Rennes que nous vous emmenons pour les mêmes raisons. Ville moyenne, autrefois tranquille, désormais les points de deal se multiplient et avec eux, les règlements de compte, les fusillades à l'arme lourde donnant lieu à des scènes de guerre. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière, aux alentours de 2h du matin. Une fusillade inédite qui a duré plus d'une heure dans la principale ville bretonne. Regardez, écoutez.
Les impacts de balles sont visibles partout en nombre sur les entrées des immeubles de la place du Bana. Les habitants parlent mais ne veulent pas être filmés. Tous sont sous le choc.
J'ai du mal à parler. D'entendre tous ces coups là, on n'est pas habitué à ça. Quoi. J'en ai marre. Quoi. J'en ai marre d'avoir peur.
Ça tirait pendant au moins 30 minutes. Ça tirait, c'est comme si c'était une guerre en fait.
Il y avait vraiment des garçons là avec des armes. Ouais. Ils disaient fermez vos volets. Je sais pas comment on appelle ça, c'était un peu des armes longues.
Le procureur de Rennes confirme l'emploi d'armes de type Kalachnikov calibre 7,62. Deux hommes ont été blessés dans cette fusillade pour le contrôle d'un point de deal. Une heure de tir d'une grande intensité, du jamais vu à Rennes.
C'est la grande délinquance, hein. Quand on utilise des armes longues, des tirs en rafale, quand on voit les individus qui sont cagoulés, porteurs de gilets pare-balles, comment voulez-vous appeler ça autrement ?
Cet homme de 81 ans a retrouvé 2 douilles dans sa cuisine dimanche matin.
La balle est rentrée par le montant de la fenêtre. Elle a sectionné le tourniquet pour monter le volet. Elle a suivi son chemin dans mon micro-ondes. Et si j'étais venu dans la cuisine, eh ben je serais mort actuellement.
Le couple de retraités ne souhaite qu'une chose maintenant, déménager comme la plupart des habitants rencontrés.
On va aller plus loin sur ce sujet. Amaury, vous avez plus de précision. D'abord, parce que ce n'était pas dans le sujet, je voudrais que vous voyiez quand même ces images qui ont été filmées par des riverains hier soir. Et peut-être un mot d'abord, avant qu'on aille plus loin avec Amaury, cher Jean-Christophe Couvi. Scène de guerre. Et on va vous remettre, on va la remonter la séquence, parce qu'on va vous mettre le son également pour que vous entendiez bien l'impact que ça peut avoir dans tous les sens du terme. D'ailleurs, scène de guerre à Rennes, on en est là en France. Moi, la première chose que j'imagine, au-delà des dégâts que ça fait entre dealers, c'est le traumatisme pour les habitants qui habitent dans ce quartier et qui ont passé. Attention, hein, on n'a pas entendu 2-3 coups de feu hier, ça a duré plus d'une heure. Comment est-ce possible même ? Jean-Christophe Couvi et Amaury, je viens vers vous.
Ça a duré une heure et il y a eu une centaine de douilles retrouvées au sol et une centaine d'impacts dans les immeubles. Donc effectivement, c'est des opérations commando où on a des individus qui arrivent, qui sont lourdement armés. Et l'idée, c'est de...
C'est de la guerre de points de deal, on est d'accord?
Ah oui, c'est uniquement ça. Hein.
C'est
récupérer un point de deal, c'est faire peur à l'adversaire, c'est les tuer d'ailleurs. Si on peut les tuer, on les tue. Comme ça, après, on fait passer des messages, montrer qu'on est fort. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une cité et qu'il y a du point de deal, vous appartenez à un réseau, il y a des réseaux. Et c'est tout ce ruissellement-là qu'on voit après d'argent.
On a l'impression d'être dans un film. C'est une équipe commando, cagoulée de noir, les armes lourdes.
C'est, je sais pas, ce qui aimait Hit, le film, oui. C'était tout à fait ça. Alors, ce ne sont pas que des professionnels d'ailleurs, parce qu'on voit souvent que ce qui leur manque, c'est aussi l'habitude dans la manipulation. Mais surtout, c'est ce qui fait peur, c'est que nous, quand on intervient sur des personnes comme ça qui sont lourdement armées, on ne peut pas arriver la fleur au fusil avec une voiture de police. Donc, du coup, on a demandé des renforts au RAID, au PSIG. C'est la gendarmerie, l'équivalent des bacs gendarmes, pour pouvoir faire des colonnes et puis intervenir et chercher les individus. Mais ce que je veux noter, c'est que ce qui s'est passé à Rennes le 10 mars, il y a eu la même chose à Nantes. Alors avec moins, effectivement, moins de mitraillage, mais il y a eu deux personnes qui ont été blessées à Devallières, à Nîmes, chemin Bas d'Avignon, et à Romans-sur-Isère, oui. On a eu aussi un DAB, enfin une voiture bélier dans un distributeur de billets. Donc en fait, ce qu'on voit à Rennes, ce qu'on voit à Marseille, c'est dupliqué un peu partout dans
les villes. C'est la marseillisation de la France.
Ben, c'est ce qu'on avait dit depuis quelque temps quand même, la cartélisation, on y est, ça y est, on commence à avoir des cartels.
Amaury, plus de détails avec vous maintenant, mais vraiment pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, on vous remonte cette séquence, cette fois vraiment avec le son et filmé comme si vous découvriez la vidéo tournée donc par un habitant.
Oui, je te mets. C'est là, Oui, je te mets. C'est là,
Le corps. C'est là, on vient à son
Le corps.
Oui, je
te mets. Voilà, c'est quoi ça?
Pense aux familles qui ont des enfants et qui doivent pendant une heure se sentir totalement en danger, bien sûr. Vous avez eu des contacts réguliers avec des sources policières à Maury, on le sait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur les raisons et la précision des faits intervenus hier?
Oui, donc c'était vers 2h du matin. Alors, on dit une heure, mais vous voyez, ça dépend un peu des témoignages, etc. En tous les cas,
ça a été très long.
Ce qui ressort, c'est que ça a été extrêmement long. Et alors pourquoi c'était aussi long en fait? Tout simplement parce que les policiers sur place n'avaient pas la capacité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens et pas le nombre, ils sont pas armés à ce genre de guerre civile, enfin, une sorte de guérilla, pour intervenir. Et donc effectivement, il y a deux camions.
Pardon de vous couper, mais termes de renseignements, c'est-à-dire ce sont des points de deal qui sont observés, on peut l'imaginer depuis un moment. On peut pas imaginer qu'il y ait des bandes rivales qui interviennent. Il n'y a pas des renseignements qui sont recoupés, des écoutes, des. Alors, non, on pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir un guet-apens comme ça.
On sait qu'il y a des armes, notamment de guerre sur les points de deal, puisqu'on sait que ces points de deal ont besoin de se défendre. Et d'ailleurs, ces armes, parfois, se retrouvent dans les mains des islamistes. On l'a vu notamment avec l'attentat de Trèbes. Et donc, c'est tout le problème. Mais on voit aussi que ces armes sont quand même étroitement contrôlées, puisque pendant les émeutes, je rappelle qu'il y a eu assez peu de tirs d'armes longues ou d'armes de guerre, de mitraillettes, preuve que les dealers avaient le contrôle de ces armes et ne voulaient pas s'en servir. Ils sont parfois sur écoute, vous avez raison, mais il faut qu'il y ait à ce moment une commission rogatoire, c'est-à-dire une enquête poussée avec un juge d'instruction et que le point de deal soit déjà sur écoute. Là, visiblement, ce n'était pas le cas. Et je ne sais pas si vous voyez comment sont armés les policiers avec leurs armes de service. Ils ne peuvent pas faire face à des armes de guerre comme ça. Donc on a attendu que le RAID envoie deux camions blindés pour pouvoir intervenir, mais aussi, comme l'a dit Jean-Christophe Couvi, le peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie. Et en fait, le temps que tout ce petit monde se rassemble et puisse intervenir, eh bien, vous avez effectivement le standard de la police qui a été totalement saturé d'appels. Les policiers qui recevaient ces appels, mais qui ne pouvaient rien faire, c'est quand même assez hallucinant comme situation. Et finalement, les policiers qui vont, j'allais dire comme la cavalerie dans Lucky Luke, un peu trop tard, un peu fièrement peut-être. Et j'allais dire, c'est trop tard. Effectivement, on a ressenti. Alors, les centaines de douilles retrouvées, c'est du calibre 7,62 mm qui ont été retrouvées sur place. Et ce que me disait un policier local, c'est que le dimanche à Rennes, vous avez parfois une seule voiture de police secours qui patrouille sur différents quartiers difficiles. Donc en fait, il y a un gros manque d'effectifs. Un
gros manque de moyens également et de réponse pénale. Peut-être on se posera la question dans un second temps. On a appris également qu'il y avait deux blessés. On en sait un petit peu plus sur leur profil.
Alors, j'allais dire,
quelques mots à Maurice sans vouloir vous presser. Pardon.
Heureusement, c'est pas s'il n'y a pas de victimes collatérales. C'est-à-dire que ce ne sont pas des habitants, ce serait plutôt des parties prenantes. Ces deux hommes âgés de 24 et 30 ans qui sont déjà connus pour du trafic de stupéfiants, ils ont été amenés à l'hôpital Sud. Il y en a un qui était blessé au thorax avec son pronostic vital engagé quand même, donc c'était grave. Il est tiré d'embarras. Et le second qui était blessé au bras sans enjeu vital. Et ce que m'a dit une source policière locale, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les mises en cause pour le trafic de drogue à Rennes, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent de la région parisienne, notamment le Val d'Oise ou le Seine-et-Marne. Preuve que, si vous voulez, le trafic de stupéfiants prend de l'importance et qu'il y a une connexion qui est en train de se faire avec le reste de la France.
Merci beaucoup à Amaury et Régis qui voulaient intervenir. Vous avez beaucoup, encore une fois, taper sur les confrères, parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime forcément faire, mais vous avez beaucoup entendu parler de cette affaire dans les médias depuis hier soir.
Pas tellement, mais...
C'est une fusillade pendant plus d'une heure à l'arme lourde dans une grande ville de France.
Non mais j'ai
normal.
L'impression qu'il y a une...
Tout est normal.
Mais pas si grande. Ça, le...
enfin, c'est la première ville de Bretagne. On est dans on va dire dans les 10 plus grandes villes de France, quoi. Rennes, non, non. Allez, 10-15 villes de France. Je sais pas le classement de Rennes, mais
métropole non plus comme Lyon. C'est ça.
Oui, c'est une ville moyenne. C'est une ville moyenne, mais c'est une ville importante. C'est pas un village avec un hameau et 3 habitants, quoi.
Ce qui est terrible.
C'est une grande ville universitaire.
Oui, bien sûr.
Pardon, Régis. Il y a un débat sur l'importance de Rennes dans le territoire. Pardon.
Non, je crois qu'il y a un précédent, Marseille, qui monopolise et qui avait monopolisé d'ailleurs tout un débat qu'on avait eu sur cette émission la semaine dernière. Et il faut pas oublier que ces guerres de points de deal ont déjà tué. Moi, je me souviens que le 24 novembre dernier, dans le quartier de Stalingrad à Dijon, un père de famille dans une bataille à la Kalachnikov avait été tué pendant son sommeil. C'est-à-dire qu'il avait le malheur d'habiter un appartement qui était juste au-dessus de la cage d'escalier et une balle l'a tué pendant son sommeil.
On se souvient de Soukaina. Hein.
Voilà. Donc comme vous dites, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est en train, en France,
est-ce qu'on est en France quand on voit des images comme ça? Quand on voit des images de cartels sud-américains?
Oui,
manifestement, oui.
Vous avez la région parisienne qui débarque. Vous avez aussi des règlements de compte. On en parlait des mafias Yoda à Marseille, qui sont capables, qui ont des tueurs à gages qui agissent en région parisienne. Donc vous avez une sorte de un maillage total sur le territoire et également des planques dans les campagnes. C'est pas que simplement un phénomène urbain. C'est-à-dire qu'il y a des caches, il y a des planques qui sont, et les trafics sont extrêmement organisés et génèrent plus de 3,5 milliards d'euros de revenus par an. C'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est qu'à partir du moment, les policiers, eux, n'ont pas beaucoup d'argent pour investir et pour traquer ces... Par contre... les mafias de la drogue, elles ont de plus en plus d'argent.
Mais elles ont surtout l'argent illimité.
Ce qui est terrible, c'est que la ville de Rennes, moi je me souviens, pendant mon enfance, c'était Edmond Hervé, le maire. C'était un maire socialiste et une ville de gauche, mais c'était une ville tranquille.
Changer.
Aujourd'hui, de voir comment Nantes et Rennes ont complètement sombré et sont en train
C'est vrai que ce parallèle, il est important avec Nantes.
Terrifiant.
Il y a 20 ans, et d'ailleurs, ce matin, si vous regardiez lors des pros, il y avait ce policier d'Ille-et-Vilaine qui disait que je crois qu'il est policier de mémoire depuis 1990 et que sur les 20 dernières années, il a vu une ville s'enfoncer complètement qu'il ne reconnaît plus du tout. Je referme la parenthèse à Maury. Grâce à ma petite oreillette, je suis en mesure de vous dire que Rennes est la 11e ville de France avec 225 000 habitants, un peu plus. Parenthèse refermée. Tout ce qu'on fait depuis 40 ans, Jean-Christophe, ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent?
Alors déjà, il n'y a pas que la France. Hein. Quand
en l'occurrence, on parle de ce qui se passe chez nous.
Si des fois se comparer, on regarde en Suède, il y a énormément.
On va se comparer au Salvador, hein, mais je suis pas sûr que ça apporte.
En Europe, en Europe, regardez les Pays-Bas, narcotrafic.
Bien sûr,
Belgique, narcotrafic. Enfin, des narco-états. La Suède, il y a énormément de règlements de compte aussi la Kalachnikov entre des bandes rivales, notamment de bikers, parce que chez eux, il y a aussi une certaine immigration, c'est des Turcs. La mafia turque. Enfin voilà, on voit bien qu'en ce moment l'Europe, elle a en face d'elle
mise à l'épreuve.
Une grosse épreuve, ouais, justement, et c'est compliqué. En face, on le sait, les trafiquants, ils ont de l'argent illimité pratiquement, des ressources humaines parce que justement ils enclavent des quartiers pour que les gens qui sont dans les quartiers puissent travailler dans leur réseau très tôt. Et après, j'allais dire, ils ont du temps. Voilà. Et donc, ce sont des pragmatiques. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent très facilement. C'est pas les policiers qui les gênent le plus, hein. C'est les bandes rivales. Ils ont plus peur des bandes rivales de prendre des coups de Kalachnikov que de se faire interpeller et malheureusement d'aller en prison.
D'ailleurs, s'ils rafalent pendant une heure, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont pas être inquiétés.
Ils savent aussi comment on travaille. Ils savent très bien qu'on va pas débarquer comme ça. Il faut qu'on arrive en nombre.
C'est pas le Far West.
Faut aussi qu'on se protège, nous, policiers, et qu'on intervienne proprement. Et donc, ils savent qu'ils ont un certain laps de temps. Et ils sont pas bêtes. Ils savent très bien aussi les patrouilles de police, le nombre de patrouilles qu'il y a dans certaines villes. Moi, je me rappelle à Toulouse, on avait investi un appartement. Et en fait, tout l'appartement était tapissé de photos de policiers. Ils avaient nos photos. Ils avaient les heures de relève, qui travaillait, qui faisait quoi, etc. C'était du tapissage.
C'est ce temps d'avance.
Impressionnant. Donc imaginez, je vous parle de ça, en 98. Donc imaginez les progrès maintenant qu'ils font, notamment eux aussi dans du renseignement.
Et évidemment que chaque nouvelle affaire comme celle-ci nous remet en tête les mots de ces magistrats marseillais dont on a beaucoup discuté la semaine dernière, qui déclaraient, donc quatre d'entre eux en commission... Sénatoriale ou à l'Assemblée, je ne sais plus. Sénatoriale. En commission sénatoriale qui déclarait il y a quelques jours que la guerre contre le trafic de drogue était d'ores et déjà perdue. Et ce sont des professionnels du terrain qui le disent. Nicolas Besson, pour mémoire, procureur de Marseille. Écoutez-le.
Il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentre tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Mme Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives. Et nous avons actuellement deux enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé.
Et à la question, est-ce que Marseille préfigure ce qui va se passer dans d'autres villes en France ? De toute évidence, la réponse semble être, en tout cas pour le moment, oui.
Mais de toute façon, la procureure de la République de Paris l'avait dit il y a 18 mois maintenant, c'est jusqu'à la stabilité de nos institutions démocratiques qui est en cause, parce qu'il y a tellement de moyens financiers en jeu que de toute façon, tout le monde peut, en un mélange de menaces et de corruption, tout le monde peut finir par être...
Je crois que c'est Jean-Christophe ou Régis, il y a un instant, qui parlait de la mafia Yoda. Il y a une actualité ce week-end. Oui, le big boss, comme on dit, le grand patron de la mafia Yoda, a été arrêté au Maroc. Donc j'ai envie de me dire, quand je vois une actualité comme ça, là, une information comme ça, je me dis, mais quand on veut, on peut.
Ouais, enfin, il y a combien de...
Justement, moi je pense que c'est la question à laquelle il faudra bien...
Un réseau. Oui, mais c'est pas n'importe quoi, la mafia Yoda, là. On est sur les deux gros réseaux marseillais.
Il faudra bien finir par répondre, c'est-à-dire que nous avons...
Oui, ça repose, quoi.
Nous avons un système qui protège les libertés individuelles, et c'est heureux, dans un état de droit, une procédure pénale qui est extrêmement protectrice, justement, des mises en cause et des accusés. Donc, encore une fois, on ne va pas remettre en cause le principe. Simplement, moi, je pense que tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, en matière de fermeté, ce sera autant de libertés publiques auxquelles nous finirons par renoncer. Pour prendre l'exemple, vous parliez du Salvador tout à l'heure. Mm-hmm. Regardez à quelles extrémités ils ont dû recourir. Et c'est évidemment
tout ce qui a un tatouage est en prison.
La France. Mais voilà, parce que le président salvadorien a mis finalement tous les membres des gangs sans procès.
83%.
Oui, mais parce que le taux d'homicide a chuté.
Ça veut dire que la population est d'accord.
Bien sûr, le taux d'homicide a chuté de 97%, mais ça n'empêche pas que probablement parmi les détenus, y a-t-il des gens qui le sont à tort. Donc on ne peut pas renoncer au
10%. C'est une marge d'erreur officiellement annoncée par l'État.
Regardons
10% des policiers sont innocents.
On a une procédure
prisonniers. Autant pour moi.
On a une procédure pénale et parfois une philosophie d'application de la procédure pénale qui de facto nous met en danger et qui de facto, moi je vous le dis, finiront par faire en sorte que nous renoncions à beaucoup plus de liberté publique plus tard, faute de l'avoir fait aujourd'hui. Enfin, pas de renoncer. Mais
c'est pas l'avenir qu'on espère, en tout cas. Mais si c'est le seul moyen de venir à bout de ce trafic, oui, les consommateurs qui sont beaucoup pointés du doigt, et d'aucuns disent que c'est sur eux qu'il faut mettre la pression, puisque par définition, pas de consommateurs, pas de dealers.
Mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que dépendamment des modèles des différents pays, il n'y a pas de solution miracle. Vous regardez dans des pays qui ont légalisé ou qui tentent de le faire, bon, ils ont leurs difficultés. D'autres, par exemple en France, on a pris une position aussi morale. On parlait de philosophie tout à l'heure en lien avec, l'aide médicale à mourir, mais sur la question de comment on lutte contre le trafic de drogue, sur la légalisation, c'est aussi un enjeu éthique. On peut se poser la question. Moi, je pense que ça ouvre quand même ce débat, hein, par exemple. Non pas que je veux vous parler juste du Canada et du Québec, mais c'est quand même légal, donc je trouve ça quand même intéressant de comparer les choses.
Juste bon, enfin, ils vendent pas que du cannabis, a priori. Hein. Il y a de la cocaïne, il y a toutes sortes des extasies, et je ne sais quelles.
Juste pour vous dire,
c'est la moitié.
Ouais. Juste pour vous dire, par exemple, pour le marché au Québec, on parle depuis 2018, la Société québécoise de cannabis a enregistré des revenus de plus de 2,3 milliards de dollars et 50% du marché illégal a été donc, si vous voulez, pas transformé, mais canalisé de façon légale.
Récupéré.
C'est remis, il y a des millions de dollars qui sont remis. ça peut sembler un peu antinomique, mais pour la prévention, pour les aides aux dépendances, on fait quand même de la promotion pour justement expliquer la consommation de drogue. Je dis pas que c'est la panacée, hein. Comme je vous dis, on voit l'Allemagne va essayer cette
la consommation récréative.
Une chose, c'est-à-dire que si on décide philosophiquement qu'on veut lutter contre le trafic de la drogue, alors à ce moment-là, il faut mettre les moyens. Parce que oui, ce qu'on voit à Marseille, si on ne fait rien, ben ça va s'étendre. Donc si on fait ce choix, il faut l'assumer sans non plus tomber dans un état policier. Sinon, c'est de se dire que finalement, on accepte.
Je vois pas ce que vous pouvez faire d'autre que faire un état policier.
En ce moment, ce qu'on se dit, c'est que j'ai l'impression qu'implicitement.
Mais non, mais là, on arrive à un stade où quand vous avez quatre magistrats qui ont le nez dedans toute la journée et qui vous disent que la guerre est perdue, pardon, mais ça laisse.
Je pense qu'implicitement,
on a la moyenne de
la bataille.
Juste la phrase, c'est que je pense qu'implicitement, le pays a accepté.
Bon, allez, c'est terminé, les amis.
De vivre avec
la moyenne d'un point de deal à Marseille, c'est 80 000 euros par jour. Et les plus gros points de deal, 150 000 euros.
Donc, allez, voilà. Tout dernier mot en 20 secondes, Amaury.
Un jeu.
Non, mais ce que me disait une source policière locale, je trouvais intéressant, c'est que le quartier Blône, où justement a eu lieu cette fusillade, a été entièrement refait récemment.
Et
l'excuse qui a longtemps été celle de dire que finalement ce sont des quartiers désœuvrés dont les jeunes n'ont pas d'avenir et donc ils se tournent vers la drogue. Est aujourd'hui totalement dépassé.
Oui, il y a eu 500 millions d'euros, je pense, pour différents quartiers autour de Rennes.
Non, mais c'est incroyable. C'est des quartiers bien entretenus, etc. Non, c'est juste qu'il y a une économie parallèle avec beaucoup d'argent.
Et des consommateurs.
Exactement.
Ouais. Je voudrais qu'on évoque désormais cette attente insupportable. Qu'on dise un mot autour de la famille de Bastien Payet, cet étudiant et chanteur de 23 ans qui avait été battu à mort il y a 5 ans à Reims. Pas de date de procès fixée, des suspects remis en liberté, 3 hommes. Et pourtant, l'instruction est achevée depuis très longtemps. Regardez ces explications de Mathieu Devez.
Un sentiment d'abandon vécu par la famille de Bastien Payet. L'étudiant et chanteur de 23 ans est mort à Reims il y a 5 ans, tabassé en pleine rue. Malgré une instruction achevée depuis plus d'un an, le procès n'a toujours pas eu lieu et aucune date n'a été annoncée. Les trois suspects, eux, ont retrouvé la liberté.
Peut-être que quand je fais mes courses, peut-être qu'ils sont à côté de moi, j'en sais rien. Pourquoi ils se priveraient de ne pas recommencer? Puisque de toute façon, il ne se passe rien derrière. Ça fait 5 ans, il ne se passe rien. Et ils ont certainement leur petite vie tranquille, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. On risque de nous les montrer comme des gentils petits garçons qui se tiennent à carreau. Seulement, ils ont tué mon fils il y a exactement 5 ans.
Une attente insoutenable pour la mère de Bastien. Elle confie perdre peu à peu confiance en la justice.
On est tous ultra choqués. Moi, ma vie, elle est complètement détruite. J'ai perdu mon travail, je suis en invalidité. J'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon fils unique, j'ai tout perdu.
Après les faits, 2 des 3 suspects étaient restés en détention provisoire pendant 1 an et 5 mois. Le troisième, quelques mois de plus.
Jean-Christophe Couvi, pardon encore une fois d'être un peu démago en posant cette question, mais comment voulez-vous avoir confiance en la justice quand vous êtes dans une situation comme celle-là? Imaginez le calvaire.
Ça va pas.
Le calvaire, c'est pas que la vie de ce jeune homme qui est détruite, c'est celle de tout son entourage et notamment de cette maman éplorée qu'on comprend bien aisément.
Ben, en fait, nous aussi, policiers, on a du mal à comprendre. En fait, c'est-à-dire que le job est fait, on a interpellé les personnes, on sait, on est prêt justement à aller devant la justice. Et la justice est malheureusement aussi débordée. Et donc, elle doit trouver du temps. Et le problème, c'est que cette faille qui est en train de s'élargir entre les citoyens et justement le régalien, la justice et la police par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, ils ont l'impression que personne ne bouge et qu'on attend et qu'il n'y a pas de réponse à leur attente. Et c'est dramatique parce que nous, on en souffre aussi par rapport à cette maman qui attend justement la justice.
Et c'est pas qu'une question de moyens. On peut pas entendre que la justice. Bon, la justice est lente, manque de personnel, c'est acquis. A priori, chacun l'expérimente ou le sait, mais. Il y a aussi des choix idéologiques. Pardon, mais ces trois hommes qui sont inculpés, qui ont fait leur temps d'incarcération préventive. Pardon, merci beaucoup pour.
C'est 2 ans maximum.
Ils sont libérés avant les 2 ans.
Oui.
Je crois qu'ils ont fait à peine 1 an et demi. Hein.
Parce que encore une fois, le droit le permet.
Donc les 3 hommes qui ont battu ce jeune garçon à mort.
Non, mais la loi le permet, le droit le permet. Et donc effectivement, c'est.
Mais c'est pas pour ça que la morale le permet.
Non, mais la morale, c'est pas la loi. Mais c'est pour ça que il faut que la justice, et c'est son gros problème d'ailleurs, c'est ce que tout le monde demande, qu'elle soit très réactive. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on ait l'égalité, le pouvoir se défendre lors d'un procès. C'est normal de préparer son procès et sa défense. Mais en même temps,
l'instruction est finie depuis un an. Voilà. On sera en pleine instruction. Personne ne tiendrait ce genre de discours.
On attend la date du jugement.
L'instruction est finie depuis un an, Jean-Sébastien Ferjou. Et cette impression qu'a cette maman, j'en suis persuadé, c'est qu'il y a des victimes dans notre pays qui sont oubliées, qui sont mises de côté.
Mais ça, moi, je comprends parfaitement le sentiment de cette dame. Elle est loin d'être la seule à avoir ce sentiment-là. Après, ne revenons pas quand même sur des principes fondamentaux. S'il y a une limite maximale à la détention préventive, c'est
pas... Elle n'a pas été effectuée.
Oui, mais sur le principe lui-même, vous dites qu'il devrait encore être en prison. Mais si moi je vous accuse de n'importe quoi, vous êtes mis en prison et ne jamais fixer la date du procès, ça peut aussi être un moyen, justement, parce qu'on ne peut
pas. Tout va bien.
Il faut jamais oublier que les principes sont là quand même pour préserver ce qu'est un état de droit. Donc le sujet, ça n'est pas de s'en prendre.
Elle a dit ça à cette dame.
Je crois pas que cette dame, elle a envie qu'on renonce à un état de droit. Je pense que cette dame, elle aurait envie que la justice.
Elle aimerait bien retrouver son fils et elle aimerait que ceux qui ont tabassé à mort son fils.
Elle a envie qu'il soit jugé. Condamné, mais on va quand même pas dire, mettons en prison des gens ad vitam aeternam sans qu'ils aient été jugés, parce que pour le coup,
c'est
un problème à l'envers.
Mais vous avez raison. Peut-être que je me suis mal fait comprendre.
Il y a suffisamment de moyens pour que les procès aient lieu dans un calendrier raisonnable.
Voilà, et dans un calendrier qui soit concomitant avec la libération de cette détention provisoire qui, en effet, légalement, ne doit pas durer au-delà d'un certain temps, parce que nous sommes dans un état de droit et que chacun l'entend, pas de souci.
Ça peut être déformé.
Mais c'est d'entendre le garde des Sceaux là-dessus.
Enfin, j'aimerais bien l'entendre, problème, c'est que le garde des Sceaux, il passe tout son temps à dire du mal du Rassemblement National et à faire campagne contre le parti de Marine Le Pen. Et le problème, c'est que les dossiers, je me demande ce qu'il en fait.
Il nous avait pourtant expliqué que le budget de la justice était le plus important. Qui n'avait jamais été voté.
Mais où sont les effets? Où sont les effets de l'augmentation? Très bien, bravo, vous avez augmenté le budget de la justice. Où sont les effets?
Julien, vous connaissez Béatrice Brugère, qui dirige un syndicat de magistrats, FO, si je me souviens bien, et qui le décrit très bien. Ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de philosophie générale du système. Elle vient de publier un livre qui est très intéressant et qui montre bien justement à quel point le simple fait de rajouter des moyens sans se poser la question de la procédure pénale, enfin bref, de la manière dont fonctionne le système judiciaire dans son ensemble, c'est de toute façon une illusion.
Il faut refonder la justice.
Oui. Maureen Vidal, j'allais lancer le JT. Est-ce que Maureen est dans le coin? Maureen arrive. Amaury Bucco, peut-être un mot sur cette affaire. C'est vrai qu'il y a des victimes qui sont oubliées.
La durée moyenne, effectivement, du temps d'attente pour les procès en cassation, c'est ce que vous disent des avocats. Je pense qu'on est dans le timing qui est celui de cette affaire, de la mort de Bastien. Donc en fait, elle n'a rien d'exceptionnel, elle est même très banale. Je vous rappelle aussi l'affaire Adama Traoré qui a duré. Alors c'est aussi du fait des parties prenantes, mais du coup, ça fait parfois aussi des affaires judiciaires qui traînent, et on a envie de se dire, mais qu'on soit fixé et que la justice fasse le job rapidement.
La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, vous le voyez en bas de l'écran, publie un livre dans lequel elle estime penser, et avec des preuves à l'appui, en tout cas les siennes, que son frère est vivant et qu'il a été exfiltré par les services de renseignement aux États-Unis. On en parle juste après le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
Après des mois de réflexion, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur la fin de vie, un texte très encadré qui sera présenté devant le Conseil des ministres en avril, puis devant l'Assemblée le 27 mai. Une annonce qui ne fait pas l'unanimité. Les soignants en soins palliatifs s'y opposent, l'Église catholique également. Depuis hier soir, plusieurs services de l'État font l'objet d'attaques informatiques d'une intensité inédite. De nombreux services ministériels ont notamment été visés, comme le ministère du Travail. Leur impact a été réduit et l'accès au site rétabli. Une cellule de crise a immédiatement été activée. Ces attaques ne sont pas attribuables aux Russes à ce stade, selon une source sécuritaire. Enfin, la demande de l'imam Hassani Kioussen, qui voulait faire annuler son arrêté d'expulsion vers le Maroc, a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Dans un communiqué, le tribunal indique que l'imam a commis des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans. Son avocate a précisé qu'il allait faire appel.
Merci beaucoup Maureen Vidal. La sœur, je vous le disais, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès cherche dans un livre à innocenter l'homme le plus recherché de France en avançant une théorie. Selon elle, son frère donc aurait fait partie des services de renseignement français et aurait donc été exfiltré. Plus de précisions avec Augustin Donadieu.
Nous sommes le 21 avril 2011. Les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès, de ses 4 enfants et de leurs 2 chiens viennent d'être découverts sous la terrasse de leur maison nantaise. Le père de la famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est alors introuvable. Il est le suspect numéro un dans l'affaire. Après des années de contre-enquête, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès est convaincue de son innocence. La découverte des corps, pourtant authentifiée, serait une mise en scène.
Petit à petit, je me dis certainement c'est une mise en scène. Je crois à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment à l'époque de sa disparition. Il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Je connais quand même son fonctionnement.
Christine Dupont de Ligonnès affirme même que son frère est toujours vivant.
En fait, on n'a aucune raison de le croire suicidé. Selon la version officielle, on peut l'envisager, mais je ne suis pas sur cette ligne-là.
Pour la sœur du suspect numéro 1, des personnes ont participé à ce scénario et des policiers ont été complices d'une exfiltration.
Je comprends très bien que l'on puisse trouver ça totalement farfelu. C'est une hypothèse qui a été balayée, mais les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que ça.
Aujourd'hui encore, Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France dans cette affaire, toujours non élucidée, 13 ans plus tard.
Et écoutez, avant qu'on en dise un mot, l'avocat de Christine, c'est son prénom, Christine Dupont de Ligonnès, qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure dans Punchline.
Ma cliente, Christine et son époux, ont décidé, après des années et des années, de tout poser par écrit. Mais tout. Ce qui est à charge et ce qui est à décharge. Et ce livre fait 300 et quelques pages, dont une bonne partie constitue une contre-enquête. Une contre-enquête qui aboutit à la conclusion que vous venez de donner, pour eux, c'est pourquoi Xavier nous aurait-il vraiment menti ? Donc on va reprendre la lettre de Xavier et on va la lire à la lumière du dossier d'instruction, voir si c'est un menteur pathologique ou si c'est le Xavier que nous connaissions, à savoir un père et un mari aimant a priori. Et en réalité, elles arrivent à cette conclusion. Le lecteur la partagera oui, oui. Pas. Moi, je ne donne pas mon avis, car la seule chose que je sais, c'est qu'en réalité, je ne peux pas dire à ma cliente que c'est absurde, que c'est faux.
Cette affaire, c'est vraiment l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières années au moins. La sœur du principal suspect, Jean-Christophe, donc, qui jette de nouveau le trouble avec ses déclarations et ce bouquin à sortir, elle balaye tous les éléments à charge contre son frère, pourtant très nombreux. Chacun, parce que c'est vrai que ça passionne les Français, chacun a en tête cette affaire. Et l'impression qu'elle donne, en tout cas, à travers ces quelques mots entendus ce week-end, les mots de son avocat, c'est que c'est une forme de déni assez étonnant.
Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues de la police technique et scientifique. Je pense que quand ils ont fait le job, ils le font très, très bien. Alors, le complotisme, pourquoi est-ce que l'État français irait donner un crédit à un espion je sais pas ce qu'il détient comme secret pour qu'on puisse faire des mises en scène avec des cadavres d'enfants, de femmes, alors, dans un jardin, pour l'extrader en catimini aux États-Unis. Enfin, je sais pas, il a trouvé quoi, le cadavre de Roswell, il a trouvé le jeu. Enfin, il y a un truc, je comprends pas.
Elle pointe une mise en scène assurant que, et je lis ces mots, que des gens ont participé à ce scénario de fuite et d'insister. Je comprends bien qu'on trouve ça farfelu, c'est une hypothèse qui a été balayée, mais les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que ça. Et son avocat, dernier extrait à entendre, a alimenté cette théorie du complot, oui, appelons-la comme elle est, tout à l'heure, encore une fois, chez Laurence Ferrari, écoutez.
On ne sait pas où ça s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas qui a pu faire ça, et on a le père de famille qui a disparu. Voilà. Et ce livre va aider, donne des éléments. Quand on reprend les autopsies, je pense qu'elles ont été mal faites, mais ma cliente, elle examine les autopsies, et quand on lui dit que les morts remontent à 10 et 21 jours, et que dans la trace d'un cadavre, il y a encore du bol alimentaire, bah, ça pose une difficulté, ça ne peut pas remonter à 10 jours. C'est avant.
Et pourquoi il n'y a pas eu de contre-expertise ?
Ah bah parce que, justement, c'est une des grosses lacunes de ce dossier. C'est que, très rapidement, le juge d'instruction a ordonné un permis d'inhumer, ce qui ne se fait jamais dans une affaire criminelle. Sauf que celle-là, elle dépassait l'entendement.
Bien sûr.
Donc il fallait vite enterrer ses enfants et cette famille.
Et donc,
parce que, je ne peux pas demander de contre-autopsie.
Donc il y a eu une crémation 7 jours après.
En plus.
C'est ça.
En plus, c'est-à-dire qu'on n'a même pas mis les cadavres dans un cercueil. Il y a eu une crémation pour des raisons certainement financières, mais il n'en demeure pas moins que j'ai plus de cadavres. Donc,
Puis j'ajoute que Christine Dupont de Ligonnès avance également des calculs faits avec son mari concernant les corps enterrés sous la terrasse. Selon eux, il a fallu déplacer l'équivalent de 17 baignoires de terre sans alerter les voisins, soit 20 heures de travail dans un espace exigu. Preuve incontestable à leurs yeux que Xavier Dupont de Ligonnès a été aidé. Et cette thèse qui va être avancée et qui va être développée dans ce livre que chacun pourra découvrir, certains vont y adhérer. Et le doute va continuer de planer autour de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est ce qui s'est passé fameux jour.
Ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui sont venues l'aider. Là non plus, les voisins n'ont pas vu. Enfin, je veux dire, tout est fait en catimini. La difficulté, pourquoi c'est qu'il y a.
Évidemment qu'il y a une forme. Et d'ailleurs, j'étais le premier à mentionner cette forme de déni. Mais est-ce qu'on doit balayer comme ça d'un revers de la main ce qui est dit par cette dame, ou peut-être se pencher sur ses arguments et se dire il y a un trouble là.
C'est un magistrat.
Alors, je laisse finir, Jean-Christophe.
Non, mais nous, on enquête toujours à charge et à décharge. Encore une fois, je pense que les enquêteurs sont des gens sérieux. C'est la PJ qui s'est déplacée, la police judiciaire. Il y a encore une fois les policiers de la police technique et scientifique qui font les prélèvements. Il y a un médecin légiste qui fait son autopsie. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand chose à cacher. Et je pense pas que Dupont de Ligonnès soit une personne extraordinaire à cacher, encore une fois, et à protéger aux États-Unis. Enfin bon, après. Je vais m'arrêter là parce que effectivement, il y a un livre à vendre, donc dont acte.
Non, moi je rappellerai quand même que cette affaire Dupont de Ligonnès, elle reste hors norme parce qu'il n'y a pas de trace de la personne. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il avait été aperçu dans le sud de la France.
Il n'y a pas de scène de crime.
Mais surtout, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Enfin, son corps à lui, en tout cas. Et voilà, on a dit, il y a un prélèvement de carte bleue qui est identifié à un moment.
Il y a une vidéosurveillance, je crois,
où on le voit. Le lendemain, ensuite, on a cru trouver des os dans une forêt, ce n'était pas les siens. Ensuite, il y avait un moine qui lui ressemblait vaguement dans un monastère. Donc, il y avait eu une enquête et finalement, on s'est aperçu que c'était une ressemblance, simplement. Donc, en fait, ça va continuer. Je me souviens qu'un été, vous aviez le magazine Society qui avait fait sa couverture et qui avait fait. Et
d'ailleurs, l'avocat a dit que le travail de Society est bâclé, qu'ils ont récupéré des PV, qu'ils ont oublié ce qui n'allait pas dans leur sens. Mais je ne fais que relayer ce qu'a dit l'avocat aujourd'hui.
Society avait eu un effet sur les ventes de Society.
Ah, mais rupture de stock tout l'été où c'est paru.
Voilà,
où c'est apparu.
Et donc, cette affaire-là particulièrement, il y en a dans toutes les. Il y en a d'autres dans l'histoire de France, mais celle-là, en tout cas, elle marque et elle passionne. Donc, évidemment, en plus, sa sœur, bon. C'est quand même partie de groupes religieux un peu inquiétants, donc qu'elle persiste à penser que c'est pas lui et qu'elle invente quelque chose, c'est pas étonnant. Et en effet, comme vous l'avez dit, Julien, il y aura des gens qui iront,
qui vont adhérer.
Voilà.
Ouais, un dernier mot là-dessus, Amaury.
Non, mais ce qui m'agace un peu, c'est quand vous avancez des thèses farfelues, vous dites oui, mais vous n'avez
qui
pas.
Qui thèse farfelue?
La sœur, probablement.
Il faut respecter peut-être la parole de cette dame.
Mais moi, j'ai confiance aussi en la police, et je vois pas pourquoi. Voilà, il y a une enquête poussée. Et si vous voulez, quand on dit oui, mais vous n'avez pas d'arguments qui vont contre ce que je dis, qui est farfelu. Bah non, en fait, on n'a pas des arguments à poser à chaque fois contre ces personnes. Et quand elle dit oui, mais les gens n'auraient pas vu, comment c'est possible qu'on n'ait pas vu les travaux qu'il a fait pour enterrer sa famille. Mais si vous regardez les affaires judiciaires, il y a plein de choses un peu surprenantes. On se dit, tiens, c'est quand même marrant, personne n'a rien vu, etc. Et il y a ce qui est vrai, puis il y a ce qui est vraisemblable. Et parfois, c'est invraisemblable, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça a pu se produire. C'est incroyable, mais cette histoire est incroyable.
C'est tout de même le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'elle affirme quelque chose en disant c'est vrai parce que le contraire est faux. C'est-à-dire qu'il a été aidé parce que, en fait, la situation dans laquelle.
Il y a plus de 300 pages dans le bouquin. Je voudrais être prudent avec la façon dont on traite cette dame. Il y a 300 pages dans le bouquin, on l'a pas lu.
L'absurde. C'est d'ailleurs intéressant. Je dis même pas que c'est farfelu ou pas. Je n'en sais rien. Bon. Je n'en sais rien et je laisse les
spécialistes. Il nous reste 5 minutes.
Ce qui est sûr, c'est que par contre, elle raisonne. Par l'absurde. C'est-à-dire qu'elle prouve dans le livre. C'est sa thèse. Elle prouve dans le livre.
Et elle dit que la voix qu'elle a eue au téléphone,
le contraire pas celle de l'homme qui a tué, qu'elle détaille d'ailleurs dans le livre, est faux. Et donc, son affirmation est véridique.
Allez,
c'est juste ça.
On avance parce qu'il nous reste du raisonnement. Il nous reste 5 grosses minutes et je voudrais évoquer un dernier sujet avec vous. Là encore, vous n'avez pas pu passer à côté ces derniers jours. C'est le sujet Aya Nakamura, qui pourrait chanter durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le président de la République lui aurait donc suggéré d'interpréter un titre d'Edith Piaf pour l'occasion. Un choix loin de satisfaire les Français. Très franchement, elle s'est pris une campagne de haine sur les réseaux sociaux qui est assez affligeante. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste que vous voyez ce sondage Odoxa RTL qui nous dit que 63% des Français interrogés dans le cadre de ce sondage donc disent qu'ils sont opposés à la volonté du chef de l'État d'entendre Aya Nakamura interpréter Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été 2024. 39% d'entre eux penseraient même que c'est une très mauvaise idée. Elle est la cible, je le disais, d'attaques racistes assez odieuses ces derniers jours. Est-ce que ça vous a choqué les uns ou les autres?
La réponse est dans la question.
Mais non, parce que pour certains,
c'est pas raciste et choquant par construction.
C'est un délit.
Aya Nakamura, ouais.
Peut-être que Julien, moi je pense que cette chanteuse, elle est populaire chez les très jeunes. Je suis pas sûr.
Chez les jeunes tout court.
Oui, chez les jeunes. Mais enfin, moi par exemple, je suis pas vieux, mais je la connais pas. Enfin, je connais pas ses chansons.
Arrêtez. Non, mais. Il faut sortir un peu le dimanche.
Je dans votre tête, Amaury.
Regardez ce qu'elle a répondu. Tiens, je vous mets juste le tweet. Aya Nakamura qui a répondu un petit peu à cette meute qui s'attaque à elle depuis quelques jours. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens sujet d'État numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Ce à quoi la ministre des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a répondu envoyé son soutien à Aya Nakamura en répondant. Qu'elle la soutenait avec des cœurs. Voici, peu importe comme on vous aime, chère Aya Nakamura, foutez-vous du monde entier avec vous, avec les petits cœurs et les bras musclés. Elle a énormément de succès, on peut ne pas aimer sa musique,
bien sûr,
mais ça a dérivé sur quelque chose qui traîne avant
d'exporter. Juste pour finir, est-ce qu'il n'y a pas un chanteur? Non, mais je pense que les Français aimeraient peut-être un chanteur qui soit plus intergénérationnel, qui. Vous voyez, il y a des chanteurs que tout le monde chante ou tout le monde a dans la tête. Je pense que c'est.
Après, c'est.
Je sais pas, Sardou, j'en sais rien.
Sardou, c'est intergénérationnel.
Non, mais c'est quand même.
Peut-être plus.
Chez les Bucco, oui.
Vianney.
Non, mais c'est quand même.
Je plaisante.
Il y a des chanteurs quand même qui sont plus
universels. Les Jeux Olympiques.
Non, mais surtout.
Aux jeunes. Est-ce qu'on s'adresse à la France ou est-ce qu'on s'adresse au monde?
Bah, les deux.
Et à Yana.
Ah non, ça va au monde.
Aux deux, mais je dirais plutôt, on s'adresse.
Attendez, on arrive, Jean-Sébastien.
On s'adresse au monde.
Et c'est l'incarnation de la France, donc c'est.
Oui, non, mais c'est pour ça. On peut débattre et débattons. Mais pour avoir fait quelques recherches, Aya Nakamura, c'est quand même la personne qui est la plus écoutée au monde.
Bien sûr.
Non, c'est-à-dire la française la plus écoutée au monde. Non, mais c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est effectivement peut-être elle n'est pas écoutée dans certaines tranches de la population. Il y a des personnes qui ne la connaissent pas. Il y a des personnes qui n'apprécient pas peut-être ce menu. Je n'apprécie pas forcément, peu importe.
Vous avez pas un petit Nakamura en régie?
Elle est écoutée, elle est écoutée.
C'est pas un critère absolu de dire que c'est la personne.
Non, c'est pas un critère absolu, mais on peut comprendre le raisonnement, pour le coup.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi elle pourrait être
Non, mais c'est ça la question, en fait.
C'est la question.
Jean-Sébastien, on fait tourner rapidement le. Il nous reste 3 minutes. La question, c'est est-ce que cette chanteuse, avec le style qui est le sien, a sa place pour représenter la France aux yeux du monde entier pour les Jeux Olympiques?
Et pourquoi est-ce qu'elle ne l'aurait pas, Florian
Tardif? Pourquoi cette polémique depuis 3 jours?
Florian Tardif vient de le rappeler. C'est quand même l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Donc c'est pas totalement dingue d'avoir pensé à elle. Moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que nous vivions dans un pays où le président de la République n'ait rien d'autre à faire, alors qu'il y a des gens qui sont dans des brancards, dans les services d'urgence, alors qu'il y a des fusillades à Rennes, qu'il n'a rien d'autre à faire que d'aller choisir la chanteuse qui va chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Après, évidemment que les attaques racistes sont intolérables parce que il n'y a même pas besoin de le justifier. Pris dans l'autre sens, on a le droit de ne pas aimer Aya Nakamura sans pour autant que ce soit parce qu'on est raciste, ou on a le droit de trouver que ça n'est pas un très bon choix sans pour autant que ça relève du racisme. Mais franchement, on a des polémiques.
Regardez.
On croirait qu'on vit dans un pays.
Et moi, je me suis fait une autre réflexion.
Pour avoir le temps de perdre du temps là-dessus.
Je me suis fait une autre réflexion un peu moins brillante que celle de Jean-Sébastien, mais quand même, on est le 11 mars. 2024, ils savent toujours pas qui va chanter. Ça veut dire qu'ils savent toujours pas qui va chanter à la cérémonie d'ouverture. C'est juste dans 3 mois, les gars.
En même temps, il faut sortir de la Coupe du Monde de rugby.
La Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, et malgré tout le respect que j'ai pour le rugby, la Coupe du Monde de rugby, c'est une fête de village par rapport à des Jeux Olympiques à organiser.
Oui, d'ailleurs, ce qu'on a reproché à la cérémonie.
À l'époque, le président de la République n'a pas choisi, à ma connaissance, Jean Dujardin pour être le. Non, mais enfin, en tout cas, c'était pas exprimé. Là, il y a aussi une manière aussi systématique, moi je trouve, un peu trop systématique de la part d'Emmanuel Macron, de prendre des sujets, on a parlé d'un sujet extrêmement grave, et de leur sortir du chapeau au moment où tout va mal en France, et là, déclencher une polémique, ou en tout cas tenter de d'allumer un contre-feu, en fait, finalement. Et à chaque fois, c'est essayer de trouver des choses, également, et je le regrette aussi, avec notre politique internationale, parce que quand on ces propos sur l'envoi des troupes au sol, s'il s'agit simplement d'allumer un contre-feu par rapport au succès du RN, c'est absolument lamentable. Si c'est le cas, en tout cas, il a le chic pour déclencher des polémiques sur des choses qui ne le regardent pas.
30 secondes, Karima.
Non, je pense que sur les attaques racistes, évidemment, il faut condamner tout ça. Je veux dire, c'est une artiste qui a sa place, c'est très bien. Cela étant dit, moi, je pense que quand il y a ce genre de cérémonie, c'est toujours « them if you don't, them if you do ». C'est-à-dire que peu importe le choix que vous allez faire, il y aura toujours une controverse. Ça m'a fait penser, vous savez, quand il y a eu la cérémonie avec Jean Dujardin, justement, la cérémonie d'ouverture pour le rugby, eh bien, on a parlé de la représentation de la France comme étant finalement quelque chose de rance, comme étant...
Franchouillard,
c'était la France finalement des vieux réacs. Alors, et maintenant, ben là, finalement, ça se prête à une controverse où malheureusement, on voit ces attaques un peu abjectes. Mais je pense qu'on peut aimer, on peut aussi critiquer.
Bien sûr.
Critiquer, ça ne veut pas dire non plus être raciste, mais s'il y a des attaques racistes, il faut les condamner absolument.
Une petite minute pour la presse, les quotidiens dans vos kiosques demain, avant de se souhaiter une bonne nuit. Le Figaro, fin de vie, les soignants s'élèvent contre la loi Macron, pardonnez-moi, à Mayotte, également des moyens policiers hors normes, mais le chaos demeure. Pourra-t-on lire demain dans le Figaro, aujourd'hui en France, l'édition nationale du Parisien, qui soutient l'Ukraine avec cette photo de Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Le Parlement va se prononcer sur l'accord bilatéral, c'est vrai, c'est demain, passé avec Kiev par le président de la République, un vote consultatif observé à la loupe avant les européennes, et on vous relayera évidemment ce qui se sera passé à l'Assemblée sur Soir Info et sur CNews demain. Un effort sans précédent à accomplir. Interview de Pierre Moscovici dans les Échos, Ouest France, La Défense, un sujet devenu crucial pour l'Europe. La guerre en Ukraine et les incertitudes liées aux élections américaines ont mis en évidence l'enjeu de la défense européenne. On en a régulièrement parlé, notamment avec vous, Régis. C'est vrai que c'est une question majeure. Cette fusillade à Rennes, qui est relayée également dans Ouest France, ils étaient une dizaine à tirer partout, raconte un témoin. Nice Matin, bientôt la mort sur ordonnance. Évidemment, le projet de loi sur la fin de vie qui est évoqué par nos confrères de Nice Matin. L'indépendant catalan aide à mourir. Là encore, le projet Macron peine à convaincre. Et puis là, on a plutôt de la bonne humeur, hein, avec un salon au goût catalan. Et puis la Marseillaise s'est allée plus vite que moi. Allez-y, c'est pas grave, en région, on y va. Le nom du Parlement au va-t-en-guerre, c'est la question que se pose la Marseillaise, donc avant ces débats que j'évoquais il y a un instant à l'Assemblée nationale autour de ce soutien à l'Ukraine. Il y a un truc rigolo un peu à lire quand même ou pas? Non, une grève contre le budget de l'austérité de la fac de lettres et la frégate du Languedoc de retour en mer Rouge. Non, j'ai rien d'amusant à vous donner pour ce soir.
Personne
peut-être
parle
demain.
De la photo de Kate Middleton.
Ah oui, si, c'est oui. Dans le Parisien, je ne l'ai pas donné, mais le Parisien, micmac autour d'un cliché retouché, en effet. On aurait pu en parler ce soir, mais on ne peut pas parler de tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon bon Régis? Allez, merci d'avoir été avec nous.
D'un sujet grave.
Excellente,
n'utilisez pas
excellente petite ouverture. Ah, on m'a mis de la musique? Vous voyez, alors c'est ça, Amaury Bucco.
Oui,
donc Aya Nakamura, c'est ça.
Ouais.
C'est des millions et des millions et des millions et des millions d'écoutes sur toutes les plateformes.
On dirait du
c'est pas mal, c'est festif, c'est dansant. Ouais. Allez, merci de nous avoir suivis, je suis en retard, je suis désolé. Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Ça ressemble à une cour de récré, là. C'est... À demain pour Soir Info. Bonne nuit à tous et merci d'être fidèle à CNews.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.